I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Mathilde. Merci.
Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Que le haut potentiel? Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée?
Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable.
C'est un biais culturel.
Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par...
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous.
Bon, c'est pas toujours clair pour les parents.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Ma fonction de psy, qui je suis en tant que psy, qui je suis en tant que mère et en tant que femme, et ça vient s'influencer réciproquement, mais tout le temps en fait.
Dès qu'on est mère, on est coupable, bien sûr.
Bienvenue dans ce 100e épisode. Eh oui, déjà 100 épisodes, c'est incroyable. Jamais je n'aurais pensé que cette aventure m'amènerait jusque-là et que j'aurais la chance d'échanger avec autant de parents et d'experts sur tous ces sujets en lien avec la parentalité. Pour cet épisode anniversaire, j'ai voulu réinviter des expertes qui sont intervenues dans des épisodes qui vous ont passionné pour qu'elles nous parlent à leur tour de leur parentalité. Bonjour Christelle Gollner.
Bonjour.
Tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple ainsi que d'ICV. Tu exerces en libéral à Paris dans le 8e arrondissement et tu es maman de deux enfants de 11 et 7 ans. Bonjour Nathalie Piquet.
Bonjour.
Tu es sage-femme, gestalt-thérapeute. Tu as aussi fondé le centre de formation spécialisé dans le domaine de la périnatalité qui s'appelle Natal Formation. Tu es maman de deux enfants de 36 et 35 ans et tu es aussi grand-mère de deux petites filles de 9 et 12 ans.
C'est ça.
Bonjour Aurélie Roca.
Bonjour.
Tu es psychothérapeute individuelle, familiale et de couple. Tu travailles en libéral à Puteau et tu es maman de trois enfants de 12, 9 et 6 ans.
C'est ça.
Et moi, je suis maman de deux enfants de 7 et 5 ans. Merci à toutes les trois d'être aujourd'hui avec moi. En tant que psychologue spécialisée en périnatalité, je perçois régulièrement dans le regard de mes patientes et de mes patients que je suis celle qui sait, par certaines remarques, des petites phrases déguisées, voilà, j'entends qu'ils imaginent que je suis une mère parfaite, qui a réponse à tout et qui rencontre peu ou pas de difficultés. Et pourtant, les psys sont des parents comme les autres. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir la face cachée. Comment cet intérêt pour la parentalité a émergé chez mes invités et chez moi? Quelles difficultés rencontrons-nous avec nos enfants? Quelles questions on se pose concernant leur éducation? Comment notre métier a-t-il influencé notre manière d'être parent? Et inversement, comment notre parentalité a-t-elle influencé notre manière d'être psy? Alors moi, j'ai plongé dans le domaine de la périnatalité. J'étais toute jeune diplômée, j'avais à peine 23 ans. J'étais très loin de toutes ces préoccupations autour de la maternité, du devenir parent. Et puis, ça m'a fascinée, bouleversée aussi, tant d'émotions, l'intensité de ce qui peut être vécu à ce moment-là. Et puis, 10 ans plus tard, bien longtemps après, je suis devenue maman. Et puis, mon intérêt n'a fait que grandir avec mes enfants. C'est d'ailleurs plutôt à ce moment-là que je me suis intéressée aux questions dites plus éducatives autour de la parentalité. Pour toi, Christelle, à partir de quand il a commencé cet intérêt?
Je dirais qu'il a commencé enfant, jeune ado. J'ai voulu très jeune être psychologue, alors je ne connaissais pas le métier de thérapeute familiale à l'époque, mais je pense que clairement, les dysfonctionnements familiaux, comme on le sait, on ne devient pas psy ou thérapeute familiale par hasard. Et donc cet intérêt et cette réflexion sur « mais qu'est-ce que c'est en fait là ce que mon père est en train de faire, ma mère est en train de faire ?» Donc je remettais beaucoup en question et je réfléchissais beaucoup déjà du haut de mes 12 ans, en fait, sur l'impact que ça pouvait avoir sur l'enfant. enfant que j'étais. Je peux vraiment dire que ça a démarré à ce moment-là. Puis après, avec l'adolescence, j'ai eu envie de faire d'autres métiers. Et puis, je suis revenue en fait à mes amours après le bac.
Et pour toi, Aurélie ?
Alors, j'ai fait beaucoup de babysitting quand j'étais jeune. La confrontation aux enfants, etc., de sentir comment se positionner, c'était pas toujours évident, on tâtonne, etc. Et en fait, quand j'ai fait mes études de psycho, j'ai fait un stage avec une personne qui m'a ouvert un monde, en fait, autour de la parentalité, ce qu'on appelle la parentalité bienveillante, positive, etc., qui m'a beaucoup questionnée, qui m'a beaucoup interpellée, et ça a fait sens pour moi, en fait. C'était une évidence que cette question de comment se positionner, comment accompagner, comment être entourée, pour moi, c'était une évidence. Et donc, à partir de là, j'ai ouvert des portes, j'ai lu des livres, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de dingue. Et puis après, je suis devenue maman pour la première fois, et alors là, bon, il y avait les choses qu'on sent au fond de soi, et puis après, il y a ce que j'ai appris au fur et à mesure, parce qu'on grandit avec ses enfants. Nos enfants sont les plus grands enseignants, j'ai envie de dire. Donc, et j'apprends encore tous les jours aujourd'hui.
Oui, il y a la théorie, puis il y a la pratique.
Voilà, exactement.
Et pour toi, Nathalie ?
Pour moi, je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la parentalité le jour de ma naissance. Pourquoi ça ? Parce que je suis née d'une maman qui était en deuil de la personne qu'elle a le plus aimée au monde, sa grand-mère Berthe. Et puis, très vite, elle a fait une dépression du postpartum. Et donc, j'ai été un bébé d'une mère en dépression du postpartum. Et j'ai mis toute mon énergie à la tenir debout pour que moi, je puisse m'appuyer sur elle pour grandir. Et ben, des années plus tard, j'en ai fait un métier de comment prendre soin des mères, de la mienne, et des bébés, et de moi à travers tous ces bébés.
Déjà, ce qu'on a partagé, c'est que c'est un peu toute notre histoire personnelle qui nous a amenés à nous intéresser à la périnatalité, à la parentalité, avant même de devenir parents. Dans vos cabinets, vos consultations, vous rencontrez voilà, toutes les trois beaucoup de parents avec des problématiques très différentes. En quoi ça a eu un ou des impacts sur votre vie d'être confronté à autant de parents et autant de problématiques autour de la parentalité ?
Moi, en tout cas, quand tu poses la question, la première chose qui me vient, c'est quand j'écoutais les parents avant de devenir moi-même mère, ça activait chez moi la préoccupation d'avoir fait un gros travail personnel avant de devenir mère. Parce que je voyais à travers les patients à quel point, quand ce travail n'avait pas du tout été fait en amont, voilà, les difficultés dans lesquelles les familles se retrouvaient, les enfants qui portaient le symptôme, etc. Et donc, je me disais, OK. Et donc, je remercie vraiment et régulièrement dans ma tête et dans mon cœur, je l'ai fait. Et je remercie tous les patients qui ont été des grands enseignants et qui m'ont permis, pas d'éviter toutes les erreurs, parce que évidemment, j'en fais plein, mais en tout cas, de pouvoir dépasser certains écueils.
Moi, je dirais que chaque personne que je reçois, et notamment les parents, c'est il n'y a pas de recette miracle. Et pour l'expérimenter chaque jour, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'on a tous des belles capacités, des belles ressources, et c'est apprendre aussi à se faire confiance. Il y a toujours une résonance entre les parents, ce qui se passe avec l'enfant et ce que ça peut venir titiller chez nous. Après, c'est toujours important de regarder ce que ça vient titiller chez nous, parce que comme tu l'as si bien dit au début, on n'est pas des parents parfaits, on n'est pas des gens parfaits, et on fait du mieux qu'on peut. Moi, je vois combien, en fait, chaque personne que j'accompagne, et ça aussi, je suis pleine de gratitude, me fait grandir, en fait, à chaque fois, parce que ça vient m'interroger, ça vient me montrer des zones, parfois, que je n'ai pas vues, ça vient me poser des questions, et donc, en tout cas, j'apprends encore tous les jours. Il y a mes enfants, et puis il y a aussi les personnes que j'accompagne. En tout cas, c'est un chemin qui continue à chaque instant.
Et toi alors, Mathilde, ça a eu quel impact sur ta vie ?
En tout cas, travailler en périnatalité, bien avant moi-même de devenir mère ou d'en avoir même la préoccupation, ça m'a permis, au moment où je suis devenue mère, ou en tout cas j'ai commencé à avoir ce projet, ce désir, cette envie, d'être extrêmement informée. Et du coup, cette information, elle a plutôt été rassurante pour moi et j'ai pu un peu m'appuyer dessus, m'appuyer finalement sur les expériences de toutes les femmes que j'avais déjà accompagnées pour pouvoir aussi vivre cette étape-là de ma vie, peut-être plus en conscience, de manière plus connectée à ce que je voulais profondément. Donc ça m'a amenée à faire des choix auxquels je pense que 10 ans plus tôt, je n'aurais jamais imaginé. Donc j'ai accouché en maison de naissance, de manière physiologique, Je pense que aussi le fait d'entendre beaucoup de femmes qui ont subi des violences à l'hôpital, des violences gynécologiques, obstétricales, voilà, ça m'a amenée à être très préoccupée autour de cette cause et puis d'avoir vraiment le souhait, moi, de vivre ce moment-là de manière respectueuse pour moi, pour mon bébé. Donc voilà, je pense que tous ces choix et toute cette réflexion a pu se faire voilà, grâce à cette connaissance, grâce à toutes ces femmes que j'avais pu accompagner, où j'ai pu m'appuyer sur leur propre expérience à elles, pour peut-être, alors je ne sais pas si c'est éviter des écueils, mais en tout cas faire des choix qui soient plus connectés avec ce que je voulais. Et pour toi Nathalie ?
Moi ça fait 10 ans que je travaille en psychothérapie et auparavant j'exerçais le métier de sage-femme. Et pendant des années, ce métier, ça m'a nourrie et je suis passée de ce qui était quelque chose de la rigueur obstétricale qu'on m'a bien apprise. Et aujourd'hui, on sait que la science, ça sauve des vies, effectivement. Et comment remettre de l'humanité ? C'est comme si j'avais appris un métier et après, j'y ai mis ma patte à moi. C'est-à-dire que je me suis fait réapparaître avec toute cette humanité, avec un suivi des femmes en accouchement ambulatoire, c'est-à-dire suivre les femmes jusqu'à domicile, jusqu'à une heure avant d'accoucher, les accompagner à l'hôpital et les accompagner dans leurs accouchements avec les conjoints et ensuite de sortir une heure après la sortie du placenta. Donc j'ai travaillé comme ça pendant pratiquement 30 ans. Et là, à cet endroit-là, c'est venu toucher, mais vraiment ce que j'aime, c'est de ne jamais renoncer à tout ce qu'est l'humanité. Pour moi, chaque naissance, c'est se remettre au monde. Quelquefois, je peux paraître un peu rêveuse, un peu utopiste par rapport à ça, mais je ne peux pas lâcher ça, parce que j'ai vraiment cette croyance-là. Aujourd'hui, maintenant que je travaille en tant que thérapeute, moi, ce que j'aime chez les mères, et chez les bébés, et chez les couples, ce que j'aime, c'est ce qui va bien. C'est comment être très précise dans aller chercher qu'est-ce qu'ils font bien. Qu'est-ce qu'on fait bien ? Qu'est-ce qu'on a de bon dans la vie ? Et ça, c'est vraiment une façon de poser les choses et qui est un véritable éclairage pour moi.
Bah, tu parlais de naissance physiologique. Moi, justement, en amont, quand je me suis interrogée sur tous ces sujets-là, j'ai senti à l'intérieur combien c'était important d'être dans le plus juste pour soi. Et je me souviens que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, on m'avait invité à aller dans une maternité et moi je m'attendais à un rendez-vous avec une sage-femme en mode un peu on va se rencontrer, on va se sentir, faire connaissance. Et puis là, j'arrive dans une salle d'amphithéâtre où il y a pléthore de sage-femmes sur une estrade, moult couples. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas possible que j'accouche là, comme ça. Moi, j'ai besoin de sentir qu'il y a du monde autour de moi. Ce cheminement, ça m'a appris à sentir ce qui est juste ou pas pour moi. Après, comme toujours, on fait du mieux. Il y a des imprévus. Je crois que c'est ce côté, ce que je dirais, le côté animal et le côté très viscéral que les parents portent en eux. Parfois, on n'en a pas forcément conscience. Parfois, on n'y est pas forcément connecté. Et le fait d'être entouré, le fait de pouvoir en parler, permet justement d'aller se dire « Ok, qu'est-ce qui est juste pour moi ou pas ?» C'est le soutien. Moi, c'est ça que j'ai appris. C'est de pouvoir parler avec d'autres, des mamans qui ont de l'expérience, des personnes, des copines, etc. Et de ne pas rester seule. Qui était vraiment important.
Quand tu parles, Aurélie, de ce qui était juste comme ça pour toi, pour moi, vraiment, ça résonne avec la manière dont c'est une boucle permanente, vraiment une danse permanente entre ma fonction de psy, qui je suis en tant que psy, qui je suis en tant que mère et en tant que femme. Et ça vient s'influencer réciproquement, mais tout le temps, en fait. Et quand tu parles de la justesse, du coup, j'étais en train de regarder en moi-même sur cette question-là, de tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc. Et tout ce chemin-là, qui est aussi passé par qu'est-ce qui est juste pour moi en termes d'accouchement, etc., qu'est-ce que je souhaite, quel choix je fais, c'est aussi ce qui m'aide vraiment à accompagner les patients de plus en plus sur un chemin juste pour eux, en fait. Et c'est vraiment une danse entre, plus moi je suis dans cet alignement et cette justesse, plus je peux aller loin aussi avec les patients autour de ça. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une boucle, quoi. Un travail de se faire grandir sans s'arrêter.
Oui, de co-construction et de partage mutuel permanent.
Voilà, sans pour autant partager ma vie personnelle
bien
avec mes patients. Mais en tout cas, le chemin, moi, que je fais en tant que femme et en tant que mère, bien sûr, il a un impact sur la manière dont je peux aussi accompagner, en fait, les patients.
Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais qui a changé, qui a évolué ?
Alors déjà, souvent, les patients qui avaient des enfants, à l'époque, avant que je sois mère, que ce soit en thérapie familiale ou thérapie individuelle, pouvaient me poser la question. Mais est-ce que vous êtes mère? C'était une préoccupation. Et donc, je les mettais au travail sur comment c'est pour vous, le fait que je ne le sois pas. Donc, je pouvais répondre. Ça permettait d'ouvrir des choses dans le travail. Mais quand même, ça venait à l'époque où j'étais finalement plutôt quand même une jeune psy. Alors, pas si jeune, mais j'avais pas non plus 15 ans d'expérience avant d'avoir mes enfants. Ça venait quand même un peu me déstabiliser, quoi. Et mettre dans une position un peu fébrile. À la fois, quand je dis fébrile, j'ai aussi le mot vulnérabilité qui vient. Et je crois que ça, c'est aussi une force. Donc, c'est-à-dire que c'est à la fois, je pouvais me sentir un peu décontenancée face aux patients qui me posaient cette question. Et en même temps, la vulnérabilité dans laquelle ça me mettait, je pense que c'est aussi ce qui pouvait aider à la relation. Donc, c'est comme toujours à la fois des pertes, des gains dans toutes les situations. En tout cas, sur comment aujourd'hui ça a influencé ma manière d'être psy. Hein, c'était ça ta question, le fait d'être devenue mère. Difficile de répondre parce que c'est tellement vaste, en fait. Mais je dirais que ça m'a ouvert vraiment le champ des possibles. Et dans ma manière d'accompagner, j'ai l'impression d'avoir un champ de vision qui est beaucoup plus large, en fait. Et surtout qui est beaucoup plus vécu, qui est en lien avec, certes, des référentiels théoriques, des choses que j'ai pu apprendre, mais aussi en lien, bien sûr, avec mon expérience de vie. Et je crois que dans le métier de psy, l'expérience de vie, elle compte. Elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se décréter psy parce que, on a, 40 ans, 50 ans ou je ne sais quoi. Elle n'est pas suffisante, mais en tout cas, elle participe aussi de notre identité de psy, de la manière dont je vais accompagner les patients en individuel ou en famille.
Évidemment que ce qu'on vit personnellement a aussi un impact. Et là, moi, je pense à quelque chose de personnel. Moi, je suis psychologue en périnatalité. J'accompagne énormément de femmes, d'hommes et de couples en parcours de PMA. Il se trouve que moi-même, j'ai vécu ce parcours avec mon mari. Au moment où j'étais dans ce parcours, j'accompagnais aussi des personnes, des patients dans ce parcours et de comment, à la fois de ce qui a pu se jouer dans ces moments-là, qui parfois n'étaient pas simples, et puis en même temps, là aussi, de l'expérience finalement de tous les couples, de toutes les personnes que j'ai accompagnées, ça a été aussi du gain. Et je leur dis merci, moi aussi, très souvent. Ça a été du gain dans mon propre parcours de PMA. D'une certaine manière, c'est comme si j'avais une carte. Je savais un peu plus où j'allais grâce à eux. Et ça, je m'en souviens très bien quand j'ai été enceinte, à quel point ça a pu être difficile de l'annoncer à certaines patientes et que j'étais très inquiète de leur faire du mal, que ça puisse être douloureux pour elles. Certaines avec lesquelles j'ai partagé que non, c'était pas si simple non plus pour tout le monde. Voilà, et que moi aussi, j'avais pu, sans rentrer dans les détails, mais avec certaines, j'ai eu besoin pour préserver finalement le lien, pour que ça n'attaque pas le lien, de partager cette question intime, personnelle. Ça m'évoquait ce que tu disais.
Et à la fois le gain dont tu parles et comment toi, ça t'a fait connaître un champ et arriver sur un terrain qui n'était pas complètement nouveau pour toi. Et en même temps, je suis absolument convaincue de ce que je sais de toi en tant que psy, que ton expérience personnelle, elle est aussi très riche pour tes patients. Parce que tu as aussi une expertise et une empathie à un endroit. J'ai envie de dire, ton corps a vécu des choses que peut-être d'autres psys n'ont pas vécues. Et l'expérience du corps, elle est aussi très puissante. Notre expérience du corps dans notre manière d'accompagner les patients.
Oui, et en même temps, chaque patiente qui a un transfert, parfois j'espère plus qu'elle. Presque, j'y crois plus qu'elle. Et parfois, je suis tout aussi déçue qu'elle. Donc voilà, je vis aussi avec elle ces ascenseurs émotionnels, ce qui est parfois pas toujours simple. Nathalie, est-ce que toi aussi, tu as pu vivre comme ça des moments de vie finalement qui se confrontent avec les personnes qu'on accompagne et quel écho ça a eu pour toi ?
Pour parler un petit peu de ma vie personnelle et que je mets en œuvre aussi dans l'accompagnement, c'est toujours difficile de mettre en œuvre en gardant ce qui est pour soi et de n'utiliser que l'expérience sans dire « je sais ce que vous avez vécu ». Bien évidemment, c'est plutôt « j'ai visité cet endroit-là », comme tu le disais si bien. J'ai deux enfants, donc Anaïs et Victor. Et avant Anaïs et Victor, notre premier bébé a vécu 48 heures. Et depuis cet endroit-là, cette petite Tiffany, elle me guide en accompagnement du deuil périnatal. Elle me guide à un endroit où c'est pas « je sais ce que vous ressentez, mais je n'ai pas peur d'y aller ». J'ai pas peur d'aller avec eux dans leur chagrin, dans leur colère, parce que à un moment donné, j'ai trouvé moi une issue pour en sortir et j'ai confiance. Ils mettront le temps qu'il leur faut pour sortir de cet immense chagrin, mais j'ai confiance. Donc, je suis en sécurité tranquille pour les accompagner, parce que j'ai cette certitude-là. Et la même chose pour la dépression du postpartum. La dépression du postpartum, qui est un effondrement, je n'ai pas peur d'aller dans le vide avec eux. Je regarde ce tout petit qui est avec une mère qui peut s'effondrer à côté. Je regarde ce tout petit et en lui disant « il fait beau dehors ». Je te montre un pays où il ne fait pas peur. Je le connais, ton pays. C'est presque avec l'enfant que je fais alliance. C'est des endroits où je suis en sécurité. Je crois que c'est de ça dont les couples, dont les femmes ont besoin. C'est de sentir qu'à cet endroit-là, je suis en sécurité.
J'imagine, Nathalie, que cet endroit de sécurité que tu as trouvé après ces expériences personnelles très difficiles, douloureuses, j'imagine. Je suppose que il y a un travail personnel en fait qui t'a permis de pouvoir à cet endroit-là trouver une sécurité.
Une quinzaine d'années de thérapie. Je parle de Rosinette. Rosinette, c'est Rose, c'est ma petite fille qui a 9 ans et qui est née à 6 mois et qui a fait 3 mois de réa. Et elle est venue. Et pour moi, un bébé qui vient au monde à 6 mois, ne survit pas. Une expérience qui m'a fondamentalement bouleversée parce que j'ai voulu être un étayage pour ma fille, donc la maman de Rose, pour mon gendre, pour la grande sœur. Donc, et puis, avec mon côté scientifique, où je savais exactement ce qu'était la prématurité, et avec ce vécu à l'intérieur de moi, un bébé à 6 mois, il ne vit pas. Ça a été, pas à pas, quelque chose de bouleversant, et je ne l'ai pas encore fait, mais je vous livre quelque chose, mais il y a quelque chose qui est très très fort. Cette petite Rosinette, comme je l'appelle, elle est venue réparer chez moi. Et je ne lui ai pas encore raconté cette histoire-là. Et c'est très important pour moi, et je l'ai travaillé en thérapie, que Tiffany et Rosinette ne soient pas la même. Et donc, pour bien positionner à deux endroits différents. Une qui est devenue un rayon de soleil, je veux dire céleste. Et puis l'autre qui est là et pour qui je suis Mamilie. Voilà.
Pour toi, Aurélie, est-ce qu'il y a des histoires de patients ou des situations qui ont pu faire écho à des choses de ta vie personnelle ?
Bien sûr. De croire que non, mais bien sûr. Alors moi, de mon côté, par exemple, si je repense à une situation où j'ai été en difficulté avec mon fils, mon deuxième, voilà, j'avais du mal à me positionner, il venait me chercher, tout ce qu'on peut vivre en tant que parent. Et j'ai accompagné une famille où justement, il y avait aussi cette question pour ce petit garçon aussi qui bougeait beaucoup, qui cherchait beaucoup, qui criait beaucoup, qui énervait beaucoup, qui embêtait beaucoup, enfin tout ce genre de choses. Et ce qui est toujours puissant dans ces moments-là, c'est la créativité qui peut émerger dans ces moments-là, qu'on peut manquer quand on est dans le rush et dans l'instant avec son propre enfant. Et quand justement on a un peu ce recul, quand on est en séance, de voir tout d'un coup des choses qui peuvent émerger, d'idées, d'observations, etc., qui fait que derrière on se dit « tiens, je vais mettre ça dans un coin de ma tête, c'est une bonne idée pour moi-même.
Hop, je vais le tenter ce soir.
Je vais le tenter ce soir, exactement. » Ou « hop, ah, ça me permet de prendre une respiration et de revenir dans une autre énergie. » Non, c'est toujours d'une grande richesse. Je rebondis sur la confiance dont tu parlais, Nathalie, c'est... Le fait d'avoir traversé et de traverser des choses nous permet en fait de découvrir qu'on a des belles ressources et de se dire qu'on va être dans cette confiance vis-à-vis des gens qu'on accompagne, c'est cadeau pour eux en fait. De se dire que cette confiance elle est là et on sait que on est capable de tomber, de se relever, j'ai envie de dire de marcher dans la boue et que c'est pas la fin du monde. Qu'on puisse se dire moi j'ai confiance parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé et je sais qu'on peut passer à autre chose, je sais qu'on peut le dépasser. Je trouve à chaque fois que ça crée quelque chose de fantastique dans les relations.
J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis au sujet de la confiance. L'entrée dans la maternité, mon premier accouchement qui a été extrêmement puissant, un accouchement physiologique, choisi, qui arrivait par contre plus tôt que ce qui était prévu. Ça m'a transformée, ça m'a vraiment, en tout cas du côté de la confiance dans le monde et en moi, je peux dire qu'il y a un avant et un après, vraiment. Tout ce chemin depuis presque 11 ans. Ce chemin personnel de continuer d'avancer dans des espaces encore plus profonds, plus loin à l'intérieur de moi, que ce soit dans le cadre de la poursuite de la psychothérapie ou dans le cadre d'expériences de stages autour du corps, etc., qu'on appellerait aujourd'hui développement personnel, même si j'aime pas tellement le terme, mais en tout cas, voilà, d'espace comme ça. J'avance sur ce chemin-là pour moi-même, d'aller dans des espaces qui pouvaient me terrifier il y a 15 ans, etc. J'ai l'impression que je peux accompagner dans des espaces plus loin, en fait, les patients, quoi.
Notre propre confiance, on la communique, on la partage et on aide finalement la personne qu'on accompagne à se connecter à sa propre confiance et à la développer. Nathalie, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as pu rencontrer en tant que mère ou en tant que grand-mère ?
Oh ben, dès qu'on est mère, on est coupable, bien sûr.
Forcément.
Ben, forcément. Donc, en tant que mère, les difficultés, c'est peut-être, je vais en citer une en particulier. Mon fils a souhaité faire des études un peu longues hein, pour faire une fac de droit. Et il est arrivé un jour et il nous a dit « Écoutez, papa, maman, j'ai quelque chose de grave à vous dire. Voilà, je suis master 2 en droit public. Je me suis donné à fond pour faire ces études-là. Je suis tellement fière de mon diplôme. » Pour autant, je déteste le droit et je n'en ferai jamais de ma vie. Ok,
bon,
on va ranger la coupe de champagne. Et tu veux faire quoi ? Il a dit me reposer. Il est monté dans sa chambre, il en est redescendu 2 ans plus tard. Rien ne l'intéressait. J'ai tenté de, tu pourrais faire ça, je t'ai inscrit à ça, rien n'allait. Et un jour, je lui ai posé la question, parce que j'étais une mère incompétente à l'aider. J'accompagnais beaucoup de monde et pas lui. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute Victor, j'ai vraiment besoin de t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il m'a dit, oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Dis-moi. Il m'a répondu, ne perds jamais confiance en moi. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est éclairé et je me suis dit, si c'est de ça dont il a besoin, je vous donne la fin de l'histoire quand même. J'ai vu qu'il n'était plus dans cette profonde détresse, mais plutôt cool la vie, quoi. Je vais pas trop me bouger. J'ai demandé à mes collègues, je fais quoi maintenant ? Et ils m'ont dit, mets-le dehors. Oui, quand même, fiche-le dehors, mets-le dehors. Il a des ressources, tu as mis tout ce qu'il fallait dans la machine, ça va s'activer, mets-le dehors. Donc, bon, avec son père, à un moment donné, on lui a dit, on est au mois d'août, au 1er septembre, tu es dehors. Tu te débrouilles, tu fais ce que tu es dehors. Et vous savez ce qu'il nous a répondu ? Vous en avez mis du temps. J'ai cru que ça n'arriverait jamais.
Quelle lettre !
Voilà, c'est ça. Et mais c'était intéressant parce que j'ai beaucoup aimé cette réponse qu'il a pu nous faire parce que je crois que c'est ça. C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment ne pas lâcher la confiance que j'ai en eux, jamais.
Aurélie, est-ce que toi, il y a une difficulté particulière que tu as pu rencontrer en tant que mère ?
Là, ce qui me venait, c'est... Moi, j'avais des enfants qui ne dormaient pas beaucoup. Vaste sujet, le sommeil des enfants. Ouh, parce qu'un enfant est censé dormir dès à la sortie de la maternité, non ? Non, moi j'ai eu 3 enfants qui ont, entre guillemets, comme on dit, pas dormi avant leurs 18-20 mois. La joie d'expérimenter les nuits courtes, les moments de doute, les moments de « Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et je rebondis encore une fois sur cette question de la confiance, parce que dans les moments où je doutais, dans les moments où je me disais « C'est pas normal », dans les moments où je me disais « Il devrait dormir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ?» etc., je me perdais en fait, complètement. Moi, je partais en vrille, je me disais « Mon Dieu, c'est pas normal, il devrait dormir, il a 4 mois. » Enfin, ouais. Et à partir du moment où je me disais « Non, attends, reviens, connecte-toi à lui. » Écoute, trouve des solutions, fais-le dormir à côté de toi, prends-le dans ta chambre, économise ton énergie, et que j'arrêtais de me battre contre ces « il devrait »,« on dit »,« il faut », etc. Et ben, le fait de lâcher, de me dire « c'est ok ce qui se passe, fais confiance à ce qui est là », etc., et ben, tout d'un coup, ça permettait que ce soit beaucoup plus fluide, et moi, je perdais beaucoup moins d'énergie. Et donc, les premières années, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai découvert qu'on a des ressources mais insoupçonnées. La journée, j'allais quand même au boulot et j'avais la pêche. Et j'avais des ressources de dingue. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, s'est résorbé tout seul. Et c'est là où, aujourd'hui, je trouve qu'on met peut-être parfois un peu trop de psy dans tout ce côté de « il faut, il doit, c'est la norme, c'est comme ci, c'est comme ça ». Et donc, tout devient en fait un problème potentiel. alors qu'il n'y a pas forcément de problème, en fait. On crée, pour moi, parfois des problèmes, alors que ce n'est pas forcément justifié. Et parfois, c'est juste, ça prend du temps. Parfois, c'est des enfants qui ne dorment pas beaucoup. Parfois, ma fille ne dormait pas beaucoup. C'était un enfant qui faisait des siestes éclairs. Des siestes où on se dit, ah, ça y est, c'est un bébé. Elle ferme ses yeux, je dis, ça y est, elle va dormir. Et 5 minutes après, paf, les yeux s'ouvraient, genre, hey, ça y est, c'est reparti pour un tour. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, on est tous différents et je crois qu'en tant que parent, et là j'en viens à cette question de la créativité, c'est d'être dans cette créativité avec chaque enfant parce que chaque enfant est unique, chaque personne est unique. Et aujourd'hui, je me dis, c'est d'apprendre à faire avec chacun et pas de faire dans une norme, pas de faire dans il doit grossir comme ça, il doit manger comme ça, etc., etc. Et juste être dans l'accueil de, bah, j'ai envie de dire, de la spécificité de son enfant. Mais au final, c'est ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours avec n'importe quel individu, avec son conjoint, avec ses amis. Et c'est comment on fait avec chacun dans sa spécificité. Donc moi, c'est, voilà, le sommeil, ça a été un sujet pour moi en tant que jeune maman où pareil, je me disais, mais je ne fais pas bien, je ne devrais pas l'endormir au sein, il devrait dormir tant d'heures. Et puis à un moment donné, c'est de lâcher et de se dire, bon, on arrête là ce psychotage là de il faut. Et voilà, donc avec ma première, j'ai appris. Le deuxième, quand on est reparti dedans, j'ai fait, ok, c'est reparti pour un tour. Et puis le troisième, bon, je me suis dit, allez, c'est bon, on verra quand est-ce qu'il fera ses nuits, il n'y aura pas de sujet. Et finalement, ça a été beaucoup plus fluide à ce niveau-là.
Ce que tu dis, et puis ce que disait Nathalie sur la confiance, et nous aussi, on a eu des soucis la première année. Notre fils a mis un an à faire ses nuits, comme on dit. C'était un gros mangeur, donc il avait faim. Et avec mon mari, on avait décidé qu'il avait faim, qu'on allait lui donner à manger. Mais ça, ça a été difficile à tenir. Tous les conseils, et il faut, donne-lui plus à manger le soir, laisse-le pleurer quelques nuits, et puis il arrêtera de réclamer à manger la nuit, ou mets-lui un biberon d'eau, ce genre de truc. Et coup de bol, on était plutôt raccord sur ce coup-là avec mon mari, parce que moi, j'étais tellement fatiguée qu'entre minuit et 4 heures, je ne l'entendais pas, mon fils. Mais par contre, lui, mon mari, l'entendait et se réveillait et allait lui donner à manger. Et puis, on s'est dit, un jour, ça s'arrêtera, ça ne va pas durer toute la vie. Mais il y a eu des nuits, voilà, on se le redisait, ça ne va pas durer, il y a un moment, ça va s'arrêter. Et de tenir, donc de faire confiance à son enfant, mais de se faire confiance à soi. À 11 mois, je crois, un jour, ça s'est arrêté. Il a arrêté de demander à manger la nuit.
Et c'était bon. Et là, on se dit, waouh, une nuit complète. Oh, c'est ça, j'avais oublié.
Pour toi, Christelle, quelles ont pu être une ou plusieurs difficultés?
Alors, évidemment, il y en a eu plein. Peut-être, en tout cas, la première qui me vient, là, quand tu poses la question, c'est les colères, notamment de mon fils aîné. Les très grosses colères de mon fils aîné. Où évidemment, je me sentais complètement impuissante. Pour mon mari, pareil. Et c'est sûr que ça rebondissait aussi beaucoup avec mon métier, où je me disais, c'est la cata, quoi. Enfin, comment je peux prétendre accompagner des patients ou des familles autour de ces questions-là et être vraiment en difficulté? Je pense même à une situation là, avec une famille où c'était très difficile. Donc, en thérapie familiale, je travaille en co-thérapie, donc nous sommes deux, et franchement, heureusement. Notamment pour la situation là à laquelle je pense. Je pars de chez moi pour aller en consultation et au moment de partir, une énorme crise de colère de mon fils. Donc très désagréable comme départ. Bon, mon mari prend le relais, j'ai confiance à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je pars pour les consultations. La première famille qu'on reçoit avec ma collègue, enfin premier entretien, donc c'était une nouvelle famille. Et là, ils arrivent avec une configuration familiale la même que la nôtre, des enfants dans les mêmes âges et avec une problématique de colère et des enfants avec une personnalité très très similaire à celle de mes enfants. Et alors là, c'était terrible parce que je me sentais pour le coup beaucoup trop identifiée à ce qui se passait dans cette famille. Voilà, en tant que psy, pouvoir se regarder et voir ce qui est en train de se passer et avoir ce recul-là, c'est quand même vraiment, j'ai envie de dire, nécessaire. Et moi, c'est ce qui m'a un peu sauvée, quoi, dans ce moment-là, et la co-thérapie. Parce qu'au moment où on a fait l'interséance, c'est-à-dire quand on sort en cours de séance pour échanger et revenir après, ensuite, voir la famille, je lui ai partagé. Et je lui ai dit que j'étais, en fait, là, vraiment très touchée par ce qui se passait pour cette famille, que j'étais encore prise par l'émotion de ce que j'avais vécu le matin. Là, pour cette fin de séance, j'avais besoin de m'appuyer sur elle davantage, que j'allais mettre un petit peu en retrait, parce que je voyais que moi, j'avais besoin de faire un travail de distinction entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à la famille. Je ne pourrais jamais, en tout cas, éviter des situations qui me touchent, éviter des situations qui me rappellent des choses de mon histoire, soit de mon histoire passée, soit de des choses qui sont actuelles. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, donc je les accueille. Mais c'est effectivement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir faire ce distinguo, quoi, entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, et pouvoir rester pleinement disponible pour les personnes que j'accompagne. Donc, il y a le travail de psychothérapie et puis il y a aussi tout l'espace de supervision. Un superviseur, bah, c'est le fait qu'on aille voir un autre professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute familial, pour amener des situations dans lesquelles bah, voilà, je me sens en difficulté, dans lesquelles, en tant que thérapeute, on se sent en difficulté. Et donc, on va pouvoir bah, réfléchir quoi, aux enjeux relationnels, aux enjeux personnels, qu'est-ce qui appartient à la famille et comment je peux utiliser ce que je vis, non pas pour moi dans l'espace de la thérapie, mais comment je peux l'utiliser pour accompagner, j'ai envie de dire encore mieux, en tout cas davantage les personnes, quoi.
Oui, là, ça me réévoque ce dont je parlais tout à l'heure, de cette annonce de ma grossesse, voilà, qui m'inquiétait beaucoup. Et en effet, je l'ai beaucoup travaillé à la fois en supervision, à la fois dans un espace thérapeutique pour pouvoir voilà, le faire de la manière qui soit la plus confortable possible pour moi et donc aussi pour les personnes que j'accompagnais à ce moment-là, bien sûr. Nathalie, pour toi, qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est encore le plus important à transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants ?
Je parlais de confiance tout à l'heure et je crois que la phrase que mes enfants entendent le plus souvent et qui me tient à cœur, c'est « comme tu feras, ce sera bien ». Et c'est pas que je me désintéresse, bien au contraire, c'est vraiment, je suis convaincue de les regarder faire, de les regarder grandir, de faire un étayage, de créer les conditions pour qu'ils puissent s'appuyer sur moi. Mais c'est eux qui ont le dernier mot. C'est vraiment ça que j'ai envie de leur transmettre. C'est la liberté et qu'ils ne peuvent en aucun cas et jamais être décevants pour moi.
Merci Nathalie. Aurélie, toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants ?
C'est l'autonomie. Mais l'autonomie qui va résulter avec aussi la confiance. C'est-à-dire que pour moi, l'autonomie, c'est faire en sorte qu'ils puissent expérimenter, faire des expériences, des erreurs, puisque pour moi, c'est comme ça qu'on fait des apprentissages et c'est comme ça qu'on grandit. Donc l'autonomie, pour moi, c'est la base pour que l'enfant puisse évoluer dans le monde. Et en expérimentant, il va pouvoir apprendre à développer, on va dire, ce qu'on appelle la confiance en soi. Parce qu'il est tombé, il s'est relevé, il a vu qu'il était capable. Donc pour moi, vraiment, ce qui est le plus important. Et après, c'est aussi de sentir combien bah, ils sont tels qu'ils sont, qu'on n'attend pas d'eux qu'ils soient parfaits. L'important, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment et ce qui leur plaît. Et après, comme je dis, c'est à nous de travailler sur nos propres angoisses de parents, sur si mon enfant me dit « je vais être bergère », et de me dire « ok, qu'est-ce que ça vient me dire là quand je stresse en me disant « elle va être bergère, mais quelle idée !» Non, je rigole. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire « nous, en tant que parents, c'est travailler sur nos peurs » pour pouvoir justement laisser l'espace pour que l'enfant puisse suivre sa route et être sur son chemin. Et aussi apprendre à réfléchir et à remettre en question. Pour moi, c'est très important aussi.
Et pour toi, Christelle ?
Le premier mot, en tout cas, qui est venu quand tu as posé la question, ça a été le mot « joie ». Et si je le raccroche, en tout cas, à toutes les questions éducatives, quand notamment mon premier est passé de la crèche à l'école. Donc tout de suite, dans l'école maternelle, il y a quelque chose où ça y est, il faut être sérieux, il faut bien se tenir, il faut être posé. Enfin. Et puis, j'entendais beaucoup de parents dire à leur enfant « travaille bien ». Et alors, ça activait chez moi une tension de me dire « travaille bien, il a 3 ans, est-ce que vraiment, en fait, c'est ça que j'ai envie de lui transmettre ?» Et au fond, si c'est travailler, c'est quoi son travail d'un enfant de 3 ans ? Du coup, j'ai fait le choix de dire toujours, et je le garde très souvent d'ailleurs, ça, même avec des enfants plus grands, « amuse-toi bien ». Parce que c'est très important pour moi de transmettre dans ce qu'ils ont à vivre, d'y mettre de la joie. Après, bah, y a des moments où, évidemment, il n'y a pas de joie. Donc, je suis aussi attentive à ne pas être dans cette injonction au bonheur. Hein, mais je crois que ce n'est pas la même chose, justement, le bonheur et pouvoir mettre de la joie. Mais voilà, en tout cas, si je fais vraiment le lien avec l'école, cette question de la joie. Puis bon, après, je ne vais pas redire ce que tu as dit sur l'autonomie et les découvertes et pouvoir expérimenter, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma manière d'éduquer les enfants, où j'ai toujours aimé les autoriser et les regarder, expérimenter des choses nouvelles, se mettre du yaourt partout sur la tête, en mettre partout, revenir dégoûtant du du parc. Voilà. Et j'aime les regarder. Je trouve que c'est beau de les voir découvrir le monde et de les laisser, en fait, découvrir le monde avec confiance. Enfin, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
Et si je rebondis, ce serait découvrir le monde et accepter, nous, de faire abstraction du regard des autres aussi. Parce que finalement, je crois que c'est souvent le regard des autres qui nous empêche, en fait. Je pense à ma fille qui, un jour, rentrait du jardin d'enfants et elle avait décidé qu'elle était un chien. Et donc, elle est remontée tout le long de la rue, à quatre pattes, dans la rue. Ce jour-là, j'ai dû passer pour une mère indigne, horrible, etc. Mais elle était ravie d'être un chien et elle a vécu à fond son expérience. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot « apprenti », sage. On est tous des apprentissages dans notre chemin sur Terre. Et les enfants, ils l'expérimentent très, très bien.
Et pour toi, Mathilde ?
Alors, pour moi, il y avait des choses que vous avez déjà dites autour de l'autonomie, de la confiance. Et puis, peut-être l'autre chose, ça serait la capacité d'être en relation de manière confortable avec les autres. Et là, on l'expérimente un peu avec notre fille, donc qui a 7 ans. Et les disputes de copines, les clans, les trucs, voilà, on rentre un peu là-dedans. Donc, on essaye d'accueillir. Mais parfois, c'est un peu compliqué aussi de la voir rentrer de l'école triste. Une telle, c'est plus ma copine, alors que la veille, c'était sa super copine. Bon, bref. Donc voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'ils puissent tous les deux être bien évidemment dans leur basket, mais aussi bien dans les relations avec les autres et de savoir s'entourer. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, de pouvoir choisir les personnes qu'on a envie, son village, voilà, les personnes qu'on a envie d'avoir autour de soi. Nathalie, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as pu conseiller à des parents et que toi-même, tu avais du mal à appliquer ?
Oh, sûrement, j'ai dû être dans le yaka, il faut, à un moment donné, quand on est un petit peu fatigué, voilà. Mais fondamentalement, si je réponds à cette question, je crois que moi, je travaille beaucoup avec les anciens nouveau-nés, que sont les adultes. Voilà, j'aime beaucoup les anciens nouveau-nés. Et les anciens nouveau-nés, quelquefois, ils sont en larmes, ils pleurent, quelquefois, ils hurlent, quelquefois, ils sont dysrégulés. Et j'invite toujours à faire alliance avec l'ancien nouveau-né, à le border, à être en douceur avec lui et de le remercier parce qu'il a fait l'adulte qui est là en face de moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente très, très souvent. Et puis, je sais que moi, parfois, j'ai du mal à être en lien avec le bébé qui s'affole en moi, avec l'ancien nouveau-né qui s'affole et qui fait des colères. Et qui refuse l'apprentissage, qui refuse le monde des adultes. Quand ça vient me tamponner dans ma vie d'adulte, il me faut beaucoup de bienveillance et de me dire, rappelle-toi ce que tu dis aux autres. C'est que cet ancien nouveau-né, il ne faut pas l'attaquer, il faut simplement en prendre soin. Voilà.
En tout cas, moi, par exemple, J'ai pu inviter des parents à rester calmes face à la colère de leur enfant.
Franchement, c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile. Non. Et parfois, j'ai, moi aussi, pété des plombs, clairement. Et je pense à autre chose qui est de recommander, en effet, d'éviter les écrans, notamment un écran qui serait non pas un temps de partage où on va regarder un film ensemble, mais pour moi, être tranquille. Et ça m'est déjà arrivé de mettre mes enfants devant un écran pour moi, avoir un moment de tranquillité. J'ai déjà fait ça, c'est terrible.
Oh, quelle joie! Est-ce que tu as kiffé ton moment tranquille?
J'ai kiffé mon moment tranquille. Et je le garde dans ma pocket de temps
grave.
En temps.
Grave. Ouais.
Pour toi, Christelle?
Oui, évidemment, dans ma manière de travailler, ça peut m'arriver, évidemment, de donner un conseil, etc. Mais ce n'est pas, en tout cas, mon style privilégié. C'est-à-dire que je ne suis pas coach parental. Donc oui, ça m'est arrivé. Alors, ce que tu disais, Mathilde, sur le fait de crier, évidemment, c'est des choses que j'ai déjà discutées avec des parents, ou en tout cas des parents qui sont dans la culpabilité de crier, et d'avoir pu contacter la même culpabilité la veille ou le matin même. C'est très important pour moi, dans mes valeurs et dans mon éthique, pas que professionnelle, mais de vie, d'être vraiment dans la mesure du possible, évidemment qu'il y a des loupés, mais dans la mesure du possible, d'avoir cette intention, en tout cas, d'être alignée le plus possible entre ce que je dis, ce que je fais, ce qui me semble important. Je ne crois pas être quelqu'un de fondamentalement différent entre la psy que je suis et la femme que je suis, en fait, et la mère que je suis. Il n'y a pas un grand écart. Je veux dire, les personnes qui me connaissent dans le cabinet, qui me verraient dans ma vie personnelle, ne se diraient pas « mais c'est complètement une autre personne, c'est incroyable !» Et vice-versa, en fait. Les personnes qui me connaissent dans ma vie privée, si elles me voient dans mon cabinet... dans ma manière d'être et d'interagir avec les personnes, ben, y a pas un grand écart, en fait.
Et moi, ce que ça m'a appris, si je rebondis, c'est aussi de mettre de la douceur sur soi, en fait. Donc, quand dans les moments où on pète des câbles, etc., encore une fois, il n'y a pas de parent parfait. Donc, c'est vraiment de s'autoriser cette douceur, cette bienveillance, de vraiment se l'offrir en disant « bah ouais, ok, là, t'as merdé ». Et après, c'est ce qu'on en fait, quoi.
Là, tu parles finalement de la mère suffisamment bonne.
Oui,
hein, donc
suffisamment.
C'est ni cette mère parfaite, ni cette mère qui serait complètement imparfaite. Je crois que cette danse entre les deux, ça m'a beaucoup aussi aidée en tant que psy à accueillir le fait que je n'étais pas une psy parfaite, que j'étais la psy suffisamment bonne. Et la mère suffisamment bonne m'a beaucoup enseigné ça dans mon métier de psy. Et puis, pareil, évidemment, ça continue de s'influencer réciproquement. Mais j'avais envie de partager ça parce que la maternité m'a beaucoup enseigné ça, en fait, accueillir ma vulnérabilité et mes imperfections.
Pour moi, je dirais aussi, en tout cas dans mon expérience, d'accueillir l'ambivalence et d'accueillir à la fois le fait que j'adore mes enfants, que j'adore passer du temps avec eux, mais aussi j'adore quand je ne suis pas avec eux et d'avoir ces moments-là pour moi. Aurélie, et le mot de la fin.
Et j'ajouterais, ça me permet aussi d'accueillir les personnes, les parents, les adultes qui sont en face, vraiment dans leur ambivalence, dans leur couac, et avec beaucoup de douceur, et que eux puissent aussi se déposer, qu'ils sont pas, là aussi, ils sont juste suffisamment bons, et de pouvoir le reconnaître.
Merci infiniment à toutes les trois pour tout ce que vous avez partagé. Vous savez, dans Parentalité, on recommande toujours des lectures, des films ou autres. Donc je vais vous proposer à chacune, s'il y a un livre, un film, un documentaire, un podcast qui vous a parlé en tant que parent et que vous avez envie de partager, qu'est-ce que ce serait ?
Peut-être un livre qui s'appelle « Désir d'enfant » de Mathilde Bouichou, mais je ne sais pas si tu la connais, je t'en parlerai un jour. Elle est pas mal, hein, mais voilà. Et puis sinon, mon livre de chevet en ce moment, c'est celui de Cyrul Nick qui est « La nuit, j'écrirai des soleils ».
Christelle ?
Alors, sur en tout cas un livre qui a été un peu un phare pour moi dans les années difficiles, notamment autour des colères, c'est « L'amour ne suffit pas » de Claude Almos.
Et moi, je vais parler d'Isabelle Filioza, « Il n'y a pas de parents parfaits ». Un film, alors je ne sais pas si c'est celui qui me vient là, je ne sais pas pourquoi je pense, mais donc je partage, c'est Encanto.
Le Disney,
oui. Que je trouve fantastique dans comment chaque personne dans une famille... à sa spécificité, à son apport et comment on fonctionne ensemble et qu'il y a des couacs aussi dans les familles et que c'est pas grave et que le tout c'est de pouvoir justement regarder, le dépasser.
Et puis moi je dirais, alors un livre qu'on a déjà recommandé plein de fois mais c'est pas grave, c'est La grossesse au naturel d'Ina Megasquin, parce que vraiment ces témoignages d'accouchement où il n'est jamais question de douleur mais de puissance, de renaissance, quand j'ai lu ça, ça a été aussi vraiment une révélation pour moi et ça m'a guidée aussi dans le chemin de ma maternité. Encore un immense merci à toutes les trois. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec chacune de vous, tout ensemble, pour ce 100e épisode. Et puis, merci aux auditeurs et à très bientôt.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.